deuxième partie. Jacques, à toi de nous parler d'un roman.
Un roman qui s'appelle Handsome Harry de James Carlos Blake. Il est paru chez Gallmeister et il est traduit par Emmanuel Payet. Alors, James Carlos Blake, si vous ne le savez pas, c'est un auteur américain d'origine mexicaine. Son nom vous l'indique un peu. Il a émigré quand il était jeune et il s'est fait une spécialité de raconter l'Amérique au travers de certains de ses héros, malfrats, gangsters, des outlaws, comme on dit.
Hors la loi.
Hors la loi.
En français.
Il a commencé par John Wesley Harding, qui a été aussi célébré par Bob Dylan dans un excellent album. Puis, il est passé à Pancho Villa ou Jimmy the Kid, celui qu'on voit de façon assez caricaturale dans Lucky Luke. Il a aussi fait une trilogie romanesque racontant la famille Wolf dans le sud des États-Unis, des trafiquants aux prises avec un cartel mexicain. C'est un peu moins réussi malgré un vrai talent de narrateur. Et il revient donc avec ce roman Handsome Harry à ce qu'il sait faire de mieux, ces bandits mythiques vus de l'intérieur du gang. Donc Handsome Harry, c'est le lieutenant de Dellinger. Vous connaissez forcément le fameux braqueur de banque. Le roman est sous-titré « Confession d'un gangster ». Mais c'est bel et bien un roman. Un roman très documenté et pas du tout une bio. L'auteur le précise d'ailleurs dans une note en fin de volume. Ici, on se préoccupe moins des faits que de la vérité. Car souvent, les faits se contredisent, selon les sources, alors que la vérité est finalement ce qu'en fera le lecteur au travers de la vision de l'auteur. Donc Carlos Blake va nous amener aux États-Unis, les États-Unis de la Grande Dépression, celle d'après la crise de 1929, au début des années 30 donc. Au tout début du roman, Harry Pierrepont, c'est le vrai nom de Handsome Harry, et Handsome Harry ça veut dire Harry le beau gosse en quelque sorte. Harry Pierrepont, il est dans le couloir de la mort d'une prison de l'Ohio. C'est la veille de son exécution, donc on sait comment ça va se finir dès les premières pages. Et il va revenir au cours de cette dernière nuit sur sa vie, sur son aventure avec Dellinger, qui était son ami plus que son chef. Harry n'a jamais aimé travailler. Bossé pour un patron, pour que les banques lui prennent finalement tout son argent, il se dit qu'autant aller le chercher le fric directement dans la banque. Et ne rendre de compte à personne, surtout pas à un compte bancaire. Il se construit petit à petit une pseudo-philosophie libertaire pour justifier ses actes. Puisque les politiques et les patrons et les banquiers sont encore plus voleurs et menteurs que les truands, ne rentrons pas dans le système et prenons l'argent là où il est. Il va monter sa petite bande et devenir rapidement célèbre, mais aussi aller en prison. Mais d'une prison, on s'en évade, pour mieux recommencer et éventuellement y retourner. Il a un peu tendance à auto-excuser la violence qu'il utilise en la justifiant par celle du camp d'en face, les nantis. La violence est d'ailleurs, on l'a déjà dit quelques fois, une des marques spécifiques des romans de James Carlos Blake et aussi des auteurs de novel noir, comme disent les Américains, donc les noirs.
De romans noirs
américains. Voilà, comme Benjamin Whitmer, qu'on aime beaucoup ici. La violence, en fait, est une des caractéristiques principales de la civilisation américaine, quasiment l'un de ses fondements. Donc, du coup, c'est normal que James Carlos Blake utilise cette violence pour quand il raconte la naissance des États-Unis, même si les années 30, les États-Unis étaient déjà quand même bien nés.
Comme on dit, c'est une évocation qui n'est absolument pas ni gratuite, ni...
Ah ben, certainement pas, non. Dans tous ses précédents romans, c'était le même type de violence inhérente à la fabrication,
c'est pas voulu, non ? À la création
d'État américain. Finalement, Harry et sa bande, celle de Dellinger, donc, enfin les plus connus comme ça, sont pas franchement sympathiques, malgré les grands airs qu'ils se donnent. Ils sont comme beaucoup, en fait, ils ne pensent qu'au fric et au cul. D'ailleurs, c'est les passages avec les femmes qui sont les plus forts, avec un petit côté romantique, car autant Dellinger, lui, est un coureur, ça va lui coûter la vie, autant Handsome Harry reste fidèle à son premier amour, enfin presque. La belle et délurée Mary, qui va finalement intégrer la bande, et elle fera la liaison avec l'extérieur pendant les périodes d'emprisonnement. S'ils ne sont pas sympathiques, ils ne sont pas non plus antipathiques. Ils sont même plutôt attachants. Ils sont attachants comme personnages de roman. Ils ont choisi de vivre, de profiter, entre deux séjours en tôle, quitte à mourir jeunes, plutôt que de s'abrutir dans un boulot qui, de toute façon, ne les rendrait pas heureux.
Et puis de lutter contre un système dont on ne peut pas dire le plus grand bien non plus.
Exactement, voilà, mais il y a les deux. C'est ça qui les rend sympathiques, enfin, en tous les cas, pas antipathiques. Et tout le talent de James Callot Blake, c'est de nous faire vivre cette épopée au plus près des protagonistes, dans l'intimité de leur bande, une bande de gangsters. Car c'est bel et bien une épopée, et le rythme du livre est à l'aune de ces aventures. La préparation des braquages ou des évasions sont palpitantes. On évoque souvent Sam Peckinpah à propos des romans de James Callot Blake, et de fait, leur univers, la façon de traiter leur sujet, sont assez proches dans cette exaltation de la violence dont je parlais tout à l'heure.
Alors, je pense qu'on pourrait aussi parler d'un grand, grand romancier américain qui est W.R. Burnett, le petit César, voilà.
Tout à fait.
Aussi,
oui, c'est un peu dans
l'esprit. C'est un peu la suite.
Un peu dans l'esprit. Donc, James Callot Blake, Handsome Mary, paru aux éditions Gallmeister, et si je ne l'ai pas dit tout à l'heure, traduit par Emmanuel Paillet.
Alors, petite anecdote, tu as évoqué Benjamin Twitmer, mais dans le dernier roman dont on vous a parlé il y a quelques mois, Évasion, excellent roman, nous avons une jolie interview de Benjamin, et le personnage, un des personnages principaux qui s'évade d'une prison, d'une ville prison, était appelé par la presse, d'ailleurs, le petit Dillinger.
Exactement.
Voilà,
comme
en
quoi
référence,
les choses se recoupent.
Et rebondissent.
Exactement.
Alors, sans transition, moi, je vais changer de continent et je vais changer d'atmosphère.
Et d'époque,
puisque je vais vous parler du deuxième roman de la Britannique, Eva Dolan, qui met en scène, d'ailleurs, les mêmes personnages principaux que dans son premier roman. Le premier roman s'appelait Les Chemins de la Haine. Ces deux personnages principaux, c'est deux flics en Angleterre, de la section des crimes de haine, c'est là où ils travaillent. Il y a d'abord l'inspecteur Zidjic, originaire de Serbie, et Ferreira, qui, elle, donc c'est une femme, vient du Portugal. Ce deuxième opus s'appelle « Haine pour haine » et vient d'être publié aux éditions Liana Levy, tout, d'ailleurs comme le premier roman « Les chemins de la haine ». Qui lui-même, j'espère que vous me suivez,
Est réédité,
hein, puisqu'on a l'habitude maintenant, le précédent sort en édition de poche, donc l'édition de poche, c'est dans la collection Point. Le décor de ces romans, et de ce dernier donc, c'est la ville de Petersburg, et des quartiers où, je cite, « les immeubles étaient laids, de grands monolithes gris de 3 ou 4 étages aux vitres fumées, les fissures dans le béton comblées par des joints ». En gros, des quartiers miteux où s'entasse toute la misère du monde.
Et pas des joints qu'on fume, évidemment.
Non, il y en a beaucoup aussi. Mais cette misère, eh bien, dans ces quartiers-là, on va retrouver évidemment beaucoup d'émigrés et la section des crimes de haine a fort à faire. Dans ce marasme, un Iranien, un Somalien sont découverts à quelques semaines d'intervalle, roués de coups, défigurés. Mais leur mort passe inaperçue. On n'enquête pas trop sur eux. Même si les caméras ont montré un homme cagoulé faisant le salut nazi devant les cadavres, preuve s'il en est que c'est un crime raciste et que ça doit arriver à cette brigade. Mais bon, jusqu'à présent, rien ne se passe. Et il faudra donc une nouvelle agression, une voiture qui fauche un groupe et tue 2 personnes, pour que l'on réalise que tout est lié et que le visage hideux du racisme a encore frappé. Zidjic, je ne sais pas si je le prononce bien ce nom, mais ce n'est pas grave, et Ferreira...
On va l'appeler comme ça en tous les cas.
Voilà. Qui pourrait être devenu insensible à cette haine ordinaire, vont entamer une enquête fastidieuse et douloureuse pour trouver le ou les assassins. Et ces deux flics, ils sont vraiment mus par l'idée que ces morts doivent avoir un nom, une existence, et que justice doit leur être rendue. Ça pourrait être une nouvelle chronique sociale dans une ville gangrénée par le chômage et les crises quelque part en Europe. Du déjà vu, du déjà lu, beaucoup. Mais ce roman se détache de beaucoup d'autres. D'abord par la personnalité de 2 enquêteurs. Certes, comme beaucoup de flics de fiction, ils sont pleins d'empathie pour leurs victimes, pour les gens qu'ils croisent, pour l'entourage des victimes. Mais leur statut d'émigré, c'est pratiquement une tautologie, hein, puisqu'ils sont eux-mêmes de familles d'émigrés, leur fait ressentir, leur fait comprendre mieux que quiconque l'origine de ces rancœurs et de cette violence. Et sans populisme, sans cliché, ils sont les yeux qui nous décrivent cette lutte au jour le jour pour survivre, les trafics. Et puis aussi les politiques, évidemment en particulier d'extrême droite, qui utilisent la pauvreté pour monter une ethnie contre une autre, les derniers arrivés suscitant un rejet, un racisme, des précédents, et ainsi de suite. Eva Dolan, elle place sa caméra, son clavier évidemment, au ras du bitume, tout en bas de l'échelle.
Ça doit pas être facile pour taper, mais bon.
Non, mais ça multiplie les points de vue. Et de scènes en scènes, de rencontres en rencontres, elle nous restitue avec une grande finesse l'atmosphère de ces quartiers et la tension entre les communautés. Enfin, aussi, elle parle de tous ceux qui en profitent et qui fondent leur pouvoir, et le plus souvent leur richesse, évidemment l'un est lié à l'autre, sur ces fractures de la société. Donc pour terminer, je voudrais vous lire un petit extrait. C'est en gros le contrat navré de l'inspecteur Sidgwick qui donne une des raisons, c'est pas la seule, hein, mais qui donne une des raisons à tout ce qu'il voit. Bientôt la Croatie allait rejoindre l'Europe et l'arrivée des Croates au Royaume-Uni réveillerait de vieilles haines sectaires, de vieux comptes à régler. Il s'agissait d'un racisme invisible, quelque chose que les Anglais avaient du mal à concevoir. Les conflits sanglants d'Europe de l'Est continuaient de couver sur la surface et ils étaient au cœur d'un grand nombre des incidents qu'ils avaient à traiter aux crimes de haine. Les Polonais détestaient les Lituaniens, les Bulgares détestaient les Roumains et tout le monde méprisait les Roms. Un racisme blanc contre blanc qui ne se basait que sur le nom des gens. Une haine absurde qui ne montrait aucun signe d'essoufflement. Contrairement à moi d'ailleurs, pardon. Le monde ne cessait de rapetisser et de devenir soi-disant plus homogène. Mais les gens ne se rapprochaient pas pour autant. Et il semblait que plus ils partaient loin de chez eux, et plus ils mettaient de hargne à défendre le caractère supposé unique de leur culture. Je trouve que c'est une très belle, sinon définition, mais une vision du racisme et une façon d'aborder le racisme. C'est très malin et très fin.
Est-ce que tu nous as dit le nom du traducteur?
Pas du tout, de la pas du tout. D'ailleurs. Et donc, avant d'écouter un peu de musique, il faut que je retrouve, c'est honteux. Donc, ce roman, Haine pour Haine, paru aux éditions Liana Levy, est traduit par Lise Garon. Voilà, on va écouter un petit peu de musique.
Un petit peu de musique, un court morceau, extrait du nouvel album de la violoncelliste Leila Makkala. L'album s'appelle The Capitalist Blues, la chanson s'appelle The Capitalist Blues. Et ben finalement, je trouve que ça va très bien avec les romans dont on a parlé. Et dans ce morceau, Leila Makkala ne joue pas du violoncelle, mais du banjo. Elle chante aussi. C'est très New Orleans, mais elle n'en est pas moins énervée. Capitalist Blues.
Get higher. I've got the capitalist blues. When I give everything, I won't have much more to lose. I am swimming in an ocean of sharks. They are telling me how I'm gonna make my little mark.
Tout à l'heure, nous étions en 1968, à la fin de la première partie. Nous allons reculer encore un peu dans le temps pour arriver en 1959, en France, à Paris, sous le règne de Charles de Gaulle Ier, pour un roman de Thomas Cantaloube qui s'appelle Requiem pour une République et qui est paru à la Série Noire.
Nouveau venu dans le monde du polar,
exactement.
Si je ne m'abuse.
La guerre d'Algérie bat son plein, même si ça ne s'appelait pas comme ça. Le FLN commence à gagner en puissance. Et au tout début du roman, un avocat algérien, français d'ailleurs en fait, hein, puisque les Algériens étaient français, qui est très proche de la mouvance du FLN, est assassiné ainsi que toute sa famille. Pourquoi ont-ils été éliminés et par qui ? La police va mener l'enquête. Mais sans grande conviction, car après tout, ce ne sont que des ennemis de notre patrie, pense-t-il. Luc Blanchard est un jeune flic de la PJ parisienne, et lui voudrait quand même bien savoir ce qui s'est passé, malgré les bâtons dans les roues que lui met sa hiérarchie. Et sa hiérarchie, c'est le tristement célèbre Maurice Papon. Deux autres personnes voudraient bien trouver aussi l'assassin, plus que le trouver d'ailleurs, si j'ose l'ellipse. Tout d'abord Antoine Carrega, un Corse, un ancien résistant qui fricote avec le milieu. Un Corse. La femme de l'avocat était la fille de son chef dans le maquis. Il va donc mettre son réseau en marche. Le dernier qui aimerait bien mettre la main sur l'assassin, c'est Cyrus Wollstrom. Lui, c'est un salopard de la pire espèce, collabo pendant la guerre 39-45. Il s'est recyclé en se mettant au service des affaires, j'essaye de faire des guillemets, mais ça passe pas très bien à la radio, des affaires spéciales gérées par le déjà nommé Papon. Et ces trois-là vont avoir affaire les uns avec les autres pendant toutes les 500 pages et les 2 années que dure le roman. Pas 2 années à lire, bien sûr. Ils sont ennemis dans les faits, mais ils vont parfois s'allier pour découvrir la vérité, traquer le tueur et tenter de démasquer les commanditaires, dont le lecteur sait que c'est Papon et l'un de ses sbires, assez mal nommé, Deo Gracia. La tâche ne sera pas aisée car la raison d'État commande, et contre la raison d'État, même les meilleures bonnes volontés ne peuvent pas grand-chose. Le roman finira, ou presque, au moment de la fameuse manifestation des Algériens de Paris le 17 octobre 61, et surtout de la répression meurtrière de la police parisienne, que Didier Daninck, d'ailleurs, a déjà très bien raconté. Après ça, il y aura toujours pour affirmer que la police ne fait jamais de bavure. Mais si la police était pourrie à l'époque, les politiques ne l'étaient pas moins. On focus sur Papon, qui est bien sûr un salopard sans le moindre doute, mais il n'était pas tout seul. Et Thomas Cantaloube nous raconte la naissance du SAC, menée par celui qui fut plus tard ministre de l'Intérieur, Pasqua, et avec ses accointances, disons plus que suspectes, avec la pègre marseillaise. Sans faire d'angélisme, les truands sont largement moins pires que certains politiques qui dirigeaient la France à l'époque. La force du roman, c'est d'être un vrai roman noir, même s'il raconte l'histoire avec un grand H, et que, bien que de nombreux personnages réels se mêlent aux personnages de fiction. Thomas Cantaloube maintient une tension narrative tout au long de ses 530 pages. Certes, on a envie de savoir s'ils attraperont le tueur, même si nous, on sait dès les premières lignes qui il est. Mais à travers les 3 protagonistes qu'a choisi l'auteur, cela nous donne une très bonne vision de la France de l'époque avec ses contradictions, le racisme ambiant qui fait que le massacre du 17 octobre passe comme une lettre à la poste. On suppose que Thomas Cantaloube, lui-même journaliste, s'est beaucoup documenté dans les journaux de cette époque, de cette période, et c'est finalement tout ce qui n'était pas dans les journaux qu'il a dû trouver ailleurs qui fait le sel de son roman, parce que sinon, ce qui était dans les journaux, en fait, on le sait. Bien sûr, le flic Luc Blanchard a parfois des côtés bisounours agaçants. De même, on sent que l'auteur aime particulièrement le personnage du néo-bandit corse et qu'il le rend bien plus sympathique que ce qu'il ne devrait être. Mais cela fonctionne, et quand on a fini le roman, l'envie d'en savoir plus prend le lecteur. Sur tous les événements autres qu'évoque Thomas Cantaloube au cours du récit, les essais nucléaires secrets dans le désert algérien, le faux attentat de Mitterrand en 1959, ou celui, un vrai attentat, bien moins médiatisé, celui du train Strasbourg-Paris, en juin 61. Quant aux malversations du SAC et de l'OAS, cela pourrait en faire encore au moins 3 tomes de romans, pas forcément par Thomas Cantaloube, mais on pourrait en raconter plein. D'ailleurs, ça a déjà été fait aussi. C'est donc un livre salutaire à saluer, donc. Thomas Cantaloube, Requiem pour une République, paru à la série noire de Gallimard.
Voilà, et bien il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, chacun dans son coin avec un bon bouquin.
Ou plusieurs. À bientôt.